Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis sur RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je suis en conversation téléphonique avec Anne-Louise Nesme, une sociologue qui va faire une conférence lors de la journée enfance, dis-moi ton DIWA, qui va avoir lieu à Châtillon-DIWA le 15 juin. Une journée dans laquelle un certain nombre d'ateliers, des forums entre acteurs professionnels travaillant dans la petite enfance, la présence de la CAF et des relais maternels parleront autour de la problématique de la petite enfance. Anne-Louise Nesme, bonjour.
Bonjour.
Alors, je sais que vous allez faire une conférence là-bas. Peut-être pourriez-vous nous préciser pourquoi on a fait appel à vous et quel sera un petit peu le sujet de votre intervention.
Alors, l'idée, je crois, c'était de centrer cette journée festive et d'inauguration de la crèche donc autour d'une notion centrale qui est la confiance en soi et l'estime de soi. Sujet donc sur lequel, dans ma fonction de chargée de mission au sein d'une association lyonnaise qui s'appelle APSIS, Association de promotion de la santé par l'intervention sociale, j'ai eu l'occasion de rédiger un livret, quoi, un document qui est aujourd'hui destiné aux parents et diffusé sur Tourne-Alpes. Voilà, et qui s'intitule précisément « Renforcer l'estime de soi chez les jeunes enfants ».
Et donc ce livret, vous l'avez diffusé à travers quel canal ?
On est en train de le diffuser depuis une grosse année maintenant. On le diffuse de différentes manières, mais on privilégie essentiellement la diffusion accompagnée. C'est-à-dire que j'anime des journées de formation, mais aussi beaucoup de soirées débats, conférences, etc. auprès de parents et ou de professionnels pour accompagner ce support qui reste un écrit et qui, comme tous les écrits, nécessite quand même un petit peu de décodage, de déchiffrage. Donc voilà, on le diffuse de cette manière-là, en privilégiant les professionnels qui sont, je pense, les mieux placés pour ensuite le transmettre aux parents.
Vous avez dit que vous étiez sociologue. Alors pourquoi une sociologue est-elle mandatée pour s'exprimer sur la confiance en soi dans le cadre d'une journée consacrée à l'enfance ? Je ne vois pas le lien en fait encore. Vous allez me le dire.
Alors, je suis non pas mandatée, mais invitée par la commune et le comité de communes qui aurait pu certainement faire d'autres choix. Il y a des cliniciens qui travaillent un peu sur ces questions. Voilà, la situation qu'est la mienne est un peu singulière parce qu'en effet, c'est sous l'angle des sciences humaines en général et des sciences sociales en particulier que j'ai abordé ce sujet au début de ce travail en 2008, ce qui ne m'empêche pas, puisque je suis aussi formée un petit peu par ailleurs à la psychologie, entre autres, de puiser dans des sciences humaines voisines. Mais voilà, l'idée c'est de dire que l'estime de soi, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait entendre de prime abord, ce n'est pas qu'une histoire individuelle, ce n'est pas que l'affaire de soi sur soi, c'est beaucoup, beaucoup la conséquence du regard des autres sur soi, du regard des personnes importantes pour l'enfant sur lui-même. Et dès lors qu'on s'intéresse à cette interaction, on est bien aussi dans le champ des sciences sociales, c'est là l'objet de la sociologie, de travailler sur le rapport à l'autre, le rapport au groupe.
Nous n'avons pas une estime de soi parce que nous nous auto-évaluons en permanence, mais bien parce que nous sommes en interaction avec un certain nombre d'individus autour de nous qui nous renvoient une image de nous, qui nous conforte ou pas dans notre estime de nous.
Alors, c'est un peu les deux, parce que nous sommes grands, mais pour les petits qui nous intéressent ici, moins de 6 ans, c'est plus compliqué, puisque ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire cette capacité de se regarder en train de faire, n'est simplement pas envisageable pour un enfant de moins de 6 ans. Son cerveau n'est pas suffisamment mature pour qu'il puisse développer cette compétence-là. Donc lui ne sait pas encore se regarder et de s'estimer lui-même tout seul. Il a besoin du regard de l'autre pour y parvenir. Et bien sûr, plus ce regard-là est un regard positif, valorisant, encourageant, etc., plus, bien sûr, il va pouvoir grandir en estime.
On parle beaucoup de l'approbation, le fait d'approuver plutôt que de critiquer. Ça pourrait être important pour la construction d'une bonne estime de soi, alors.
Oui, alors en même temps, je le dirais peut-être pas tout à fait comme ça, mais... parce que si je travaille dans le détail là-dessus, que je reprendrai ces termes un tout petit peu. Je pense que grandir en estime, apprendre à se porter une juste valeur, hein, puisque c'est ça dont il est question ici, se reconnaître une valeur positive, si je le dis autrement, ça ne passe pas que par le fait d'entendre sur soi des retours, des feedbacks, comme on dit dans le langage professionnel, positifs. Ça passe aussi par le fait d'apprendre la critique. Ce n'est pas incompatible, hein. Dans le développement du livret, il est question de ça, et j'insiste beaucoup sur l'idée que apprendre à valider ses réussites, ça ne s'oppose pas au fait, par exemple, d'accepter le droit à l'erreur, et apprendre à se sentir appartenir à un groupe et avoir de la valeur pour l'autre, ça ne s'oppose pas au fait d'être critiqué dans un certain nombre de ses comportements. Après, tout est affaire de subtilité langagière, c'est-à-dire que si la critique porte sur ce que l'on s'en fait et non pas ce qu'il est, alors on peut imaginer rester dans quelque chose de valorisant qui ne vient pas porter atteinte à son estime. Je vais vous prendre un exemple peut-être pour être plus clair. Lorsqu'un enfant commet un acte de transgression vis-à-vis d'une limite posée par l'adulte, l'enjeu langagier, par exemple, et pour l'adulte, hein, est bien de savoir distinguer le verbe faire du verbe être, c'est-à-dire de pouvoir non pas lui dire tu es méchant ou tu es vilain ou tu es insolent ou que sais-je encore, mais bien ce que tu as fait me pose problème. Dans cette maison, il est interdit de, et c'est ce que tu as fait pourtant, ou, etc. C'est donc non pas la personne qui est critiquable, mais son comportement. Toutes les émotions sont légitimes, tous les comportements ne sont pas acceptables.
Si je voulais être un petit peu ratiocinant, j'aurais pu dire, y a-t-il une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ?
Alors ça, c'est vraiment après des histoires culturelles, là aussi, la sociologie a son regard sur cette question de la relativité culturelle. En France, on est souvent un petit peu dans la confusion, effectivement, entre ces deux notions. Or, j'aurais tendance à penser et à proposer un distinguo entre les deux en disant que la confiance en soi, c'est plus circonscrit, pourrait-on dire, plus localisé, plus finalement plus petit en termes de périmètre que l'estime de soi. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, un enfant peut, tout comme un adulte d'ailleurs, hein, peut avoir grande confiance en lui sur l'aspect langagier, par exemple, et très bien se débrouiller, tout petit qu'il est, dans le fait déjà de nommer les choses, d'avoir du vocabulaire, etc. Et donc de s'adresser aux adultes. Et puis, dans un autre temps, on va lui proposer de la motricité ou des petits jeux d'équilibre, etc., avec son corps, et ben, il va, semble-t-il, être beaucoup moins en confiance. Hein, voire même en manquer vraisemblablement. Donc la confiance, voilà, ça s'applique comme ça à des domaines, à des territoires, à des champs, à des moments qui sont circonscrits, contrairement à l'estime de soi qui, elle, est beaucoup plus globale et qui englobe la confiance en soi, mais pas seulement. Elle s'appuie sur 4 piliers, en fait, l'estime de soi, qui sont développés donc dans mon travail. La confiance en soi, bien sûr, mais aussi donc la connaissance de soi, le sentiment de réussite et puis le sentiment d'appartenance dont je parlais juste avant. Beaucoup plus global.
Alors je suppose que ça se travaille tout cela, et surtout à un jeune âge.
Oui. Alors du coup, oui, mais même pas question de correction. Moi, je comparerais plutôt ça à une plante, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire l'hypothèse, et j'ai envie de dire là, on n'a rien inventé, hein, c'est toute la psychanalyse, notamment, qui s'est construite sur ce postulat-là, que ce qui joue dans les premières années de la vie, dans les premières relations, particulier les expériences, ce qu'on appelle d'attachement et de séparation avec la mère, le père, puis les personnes importantes qui vont prendre soin de l'enfant. Ces premières expériences-là, elles vont en quelque sorte servir d'empreinte, de matrice vis-à-vis de tout ce que l'enfant et l'adolescent et l'adulte qui va devenir va ensuite vivre et revivre ultérieurement. C'est-à-dire que on n'est pas dans la reproduction, le mimétisme pur et dur, heureusement. Hein. Je suis loin de penser que tout est joué par avance et que voilà, tout se joue avant 6 ans. Mon Dieu, quelle horreur. Enfin, non, je ne crois pas. En revanche, je dis juste qu'il y a là quelque chose à prendre très au sérieux, parce que ça va jalonner, en quelque sorte, le reste de la vie relationnelle et les compétences sociales de l'enfant. Donc, en effet, on peut penser que cette période-là est extrêmement précieuse. Et du coup, on peut penser aussi que les professionnels de la petite enfance, bien que pas forcément socialement identifiés comme tels, ont vraiment une place et un rôle stratégique du point de vue du développement, de la santé psychique de l'enfant, de sa capacité à se développer, j'ai envie de dire, en joie, en bonheur, si on peut le dire comme ça. Voilà, ce sont, je crois, des acteurs de la prévention qui auraient à être reconnus comme ça, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si parfois même eux-mêmes, d'ailleurs, ne s'identifient pas ainsi, hein, puisque leur place est tellement importante à un moment fondateur pour l'enfant, que cette grande proximité qui est la leur, l'intimité qu'ils ont souvent avec l'enfant et avec la famille d'ailleurs, en font vraiment pour moi des acteurs précieux hein, du point de vue de la santé au sens large de l'enfant.
Je vais jouer un petit peu au candide, voire pire, mais je suppose que c'est important d'avoir une bonne estime de soi qu'une mauvaise, bien que peut-être que quand on se la pète, comme on dit, c'est peut-être pas si bien que ça, mais enfin, justement, à quoi ça sert d'avoir une bonne estime de soi alors ?
En fait, ça sert à plein de choses et là, pour le coup, à tout âge de la vie. Mais moi, j'aurais envie de dire que c'est une super compétence psychosociale, c'est-à-dire que elle en soutient plein d'autres. Et pour faire simple, il y a au moins 4 grandes idées pour répondre, 4 grandes fonctions qu'elle remplit chez les petits. Et même plus globalement, la première fonction, c'est une fonction d'adaptation, c'est-à-dire que il semblerait que plus un enfant s'estime, un peu pris la mesure de sa valeur dans le regard des autres, plus ils parviennent à se faire à de nouvelles situations, y compris des situations un peu déstabilisantes, un peu chamboulantes, comme le fait de passer d'un mode de garde à un autre, ou le fait de rentrer à l'école maternelle, par exemple. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que vraisemblablement, l'estime de soi permet de prendre de la distance vis-à-vis des événements pénibles à vivre, vis-à-vis des difficultés qu'un enfant peut rencontrer. Je pense notamment à des situations de divorce des parents. La troisième fonction, alors là, c'est plus au regard du groupe. La troisième fonction qu'a l'estime de soi pour un tout petit, c'est le fait de contribuer au fait de résister à l'influence groupale vis-à-vis de d'invitations à des transgressions, par exemple. Et puis enfin, et peut-être surtout, ça rejoint l'ensemble, l'estime de soi permet à l'enfant d'apprendre à prendre soin de soi. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est une compétence qui invite au fait de ne pas se porter atteinte. Ce qui est d'ailleurs finalement assez peu étonnant quand on y réfléchit. Si je m'attribue de la valeur, alors je vais peut-être être moins tentée par des conduites à risque, des conduites me mettant en danger, quoi.
Nous allons nous respecter.
C'est ça. On peut dire comme ça, effectivement. L'estime de soi permet d'apprendre davantage à se protéger dans le respect. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je parlais de super compétences, parce que du coup, on voit que si on permet aux enfants d'apprendre ça très tôt, on peut penser les amener aujourd'hui et puis demain aussi vers une capacité plus autonome à prévenir eux-mêmes donc d'éventuelles difficultés et puis des épreuves que la vie leur réserve.
Donc ça va imprégner tout leur être et tout leur comportement, et ils passeront les épreuves avec plus de facilité que d'autres qui pourraient avoir une mauvaise estime d'eux, quoi.
Oui, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, il y a une psychologue qui s'appelle Nathalie Coulon qui compare l'estime de soi à un passeport qui faciliterait du coup effectivement les passages de frontières, les zones de turbulence, pourrait-on dire. Et effectivement, comme un passeport, il s'agit de la conserver de manière précieuse, quoi, et de la valider à chaque étape. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, il ne s'agirait pas de se faire croire non plus que l'estime de soi est là pour toujours. C'est-à-dire que on ne naît pas avec, on grandit en estime de soi dans le regard de l'autre, donc c'est un processus. Mais ce qui est important aussi, c'est de bien prendre la mesure de sa fragilité. C'est-à-dire que il est possible aussi que, suite à des événements douloureux, des traumatismes, suite à des jugements répétés, négatifs, sur l'enfant, celle-ci se détériore, s'abîme, s'étiole, et que ce même enfant, 3-4 ans plus tard, semble beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins bien dans sa peau, hein, et dans sa tête. Donc rien n'est acquis pour autant.
Mais par contre, ça se travaille, et peut-être grâce à des méthodes. Est-ce que votre petit livret dont vous nous avez parlé est plus un livre à destination justement des parents et des professionnels, ou est-ce que c'est un recueil de trucs et astuces pour cultiver l'estime de soi? Qu'en est-il au juste, en fait, de ces petits livres?
Alors, je peux vous dire ce que ce n'est pas, c'est plus facile pour moi à qualifier. Ce n'est pas un livre de recettes ou effectivement un petit catalogue comme ça de trucs et astuces. Et ce n'est pas non plus un manuel de bonne conduite en sciences sociales et en sciences humaines en général. On essaye en général d'éviter d'indiquer les voies qui seraient bonnes et puis de pointer celles qui seraient mauvaises. On n'est pas là pour porter des jugements de valeur et je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il existe une bonne éducation ou une autre qui serait mauvaise. Donc le livret, j'ai envie de dire, il est surtout là pour rendre compte d'une mutualisation, d'un échange d'expériences, puisque j'ai fait le choix de l'écrire évidemment avec d'autres, ça n'aurait pas eu de sens de l'écrire seul. Donc avec un groupe de parents d'abord, qui s'est réuni pendant un hiver à peu près, et puis aussi avec un groupe de professionnels et des institutions de la petite enfance, institutions telles que le Conseil Général du Rhône par exemple, ou la ville de Lyon. Voilà, donc du coup, le livret, en fait, il est, en dehors de son préambule, il est vraiment là pour rendre compte de manière très résumée, hein, bien sûr, il fait 20 pages, de ces partages de réflexions et d'expériences des uns et des autres. Et voilà, je crois plus, non pas dans la vérité, mais dans la justesse. Et voilà, je pense qu'on est en ce sens-là dans quelque chose qui est juste, parce que il est le fait et le fruit de la parole de nombre de personnes ayant réfléchi à cette question. Donc on n'y trouve pas de trucs et astuces comme vous le présentiez. En revanche, effectivement, on y trouve des témoignages de parents qui ont eu l'occasion d'essayer des choses et puis rendre compte de leurs réflexions et des effets de certains changements pour eux. On y trouve quelques petites pistes m'apparaissent intéressantes à poursuivre, des pistes qui, par ailleurs, d'ailleurs, font écho à d'autres approches. Hein. Je pense notamment à la communication non violente, qui est, pour moi, jamais très loin dans mon esprit quand je travaille. Pour prendre un exemple, il est question, par exemple, de ce que moi j'appelle maintenant les petites phrases poison, la communication du quotidien qu'on peut avoir avec son enfant ou qu'on peut avoir avec l'enfant dont on s'occupe si on est professionnel. Ces petites phrases poison qui... au lieu de transmettre la confiance, comme on aimerait le faire tous, bien sûr, peuvent au contraire transmettre le doute et l'insécurité même. L'exemple que j'utilise le plus souvent pour me faire comprendre, c'est le « attention, tu vas tomber » qu'on adresse à un enfant quand il est encore debout.
Hein. C'est auto-prédictif.
Alors c'est souvent dans l'idée de protéger l'autre, hein, dans une évidemment une perspective de bienveillance, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Comment on permet à l'enfant, à cet âge-là, hein, moins de 6 ans, d'explorer et d'apprendre à essayer l'autonomie, qui sont pourtant l'exploration, l'expérimentation et l'autonomie, qui sont pourtant des valeurs qu'on vise, forcément. Voilà, et donc comment dans ces petites phrases-là, finalement, on projette beaucoup de nous et de nos limites, de nos peurs, qui peuvent être légitimes, hein, sur l'enfant, au détriment de sa capacité à lui, en propre, à essayer, à expérimenter, à explorer. Et donc, voilà, ce livret montre quelques petits points comme ça. Et puis ensuite, c'est dans la rencontre avec les parents ou les professionnels que on creuse un peu et puis qu'on envisage ensemble d'autres façons d'être en protection avec son enfant quand il n'est pas réellement mis en danger, mais qu'on est juste dans une crainte comme ça. Hein. Il y a d'autres façons de formuler sa bienveillance et son souci de l'autre, notamment tout simplement en parlant de soi, plutôt qu'en s'adressant à lui, sur lui, hein, et en disant « j'ai besoin d'être rassuré », par exemple. Ce qui n'est plus du tout la même chose, puisqu'on ne lui transmet plus, à ce moment-là, cette idée qu'il n'est pas capable, et ou qu'il va lui arriver malheur.
Lors de ma dernière question, j'en avais parsemé deux en une, et donc vous m'avez répondu à la deuxième, c'est à savoir qu'était ce petit livret. La première partie de la question, mais vous aviez déjà répondu à moult reprises à cette question, c'est ça se travaille sans doute, cette estime en soi, ça se travaille depuis le début, ça se travaille peut-être aussi tout au long de sa vie, même si effectivement, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas définitif.
Oui, c'est vrai. Et bien sûr, oui, que c'est un processus tout au long de la vie, que d'apprendre à se considérer et à se porter une juste valeur, j'ai bien dit une juste valeur, et non pas une valeur suprême. Hein. L'affirmation de soi, ce n'est pas la même chose que l'estime de soi. Oui, on aurait sans doute tous à travailler cette gymnastique cela au quotidien par des petits exercices. Premier et le plus simple, sans doute, consistant dans le fait d'être capable tous les soirs, au moment où on se couche, de se demander en quoi on peut être fier de soi aujourd'hui, pour ce qu'on a fait. Voilà, où est-ce que on pense avoir contribué au fait d'augmenter l'autre, comme dit Michel Serres, hein, d'avoir contribué à la chose publique, à une forme d'utilité sociale, à quelque chose de beau, etc., etc. Voilà, un petit exercice effectivement qu'on pourrait tous faire, quels que soient nos âges, sans doute, de manière fort utile.
Avec mes enfants, si je peux me permettre d'être un petit peu personnel, je joue souvent au jeu du kiff, c'est-à-dire on s'amuse le soir à dire qu'est-ce que j'ai kiffé de la journée et les autres répondent à l'unisson « oui, je kiffe ce que tu as kiffé ». Enfin bref, on s'auto-approuve dans ce qu'on a apprécié dans la journée, en tout cas on s'en aperçoit. Je ne sais pas si c'est un petit peu dans ce que vous vouliez dire.
Oui, c'est intéressant. Oui, alors là, ça développe le positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'a chagriné. Et donc, c'est intéressant parce que je trouve que ça permet aux parents, entre autres, de s'assurer de ne pas passer à côté d'un problème ou de quelque chose qui aurait pu être très contrariant pour l'enfant. Donc ça, c'est super. Et puis, ça permet aussi de s'explorer dans ses goûts et donc qu'on est bien dans la connaissance de soi. Je trouve ça intéressant. Après, voilà, une deuxième question qui serait très proche, ça serait qu'est-ce que je peux me restituer à moi-même, quoi, de ce que j'aurais fait de chouette, de valeur, de beau, d'utile, etc.
De quoi je pourrais être fier un peu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, non ?
Oui. Ouais, c'est ça. Fier ou satisfait, content, etc.
Eh bien, Anne-Louise Nesme, nous sommes loin, bien sûr, d'avoir épuisé le sujet. De toute façon, c'est pas le moment, puisque vous allez venir, lors de ce 15 juin, faire une conférence à Châtillon en Diwa, lors de la journée enfance, dis-moi ton Diwa. Donc, pour les gens que cela intéresse, rendez-vous à 10h du matin. Ça se passe dans les locaux de Abracadabra, si je ne m'abuse, à Châtillon. Et donc, à très bientôt.
Oui, merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Voilà.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.